amélioration du confort thermique. Donc, on a évoqué, alors, donc, rappelons simplement que, pour ce sujet-là, la plupart des déperditions thermiques de nos bâtis, donc ça varie évidemment d'une bâtisse à l'autre, mais pour prendre des ordres de grandeur tout simples et qui permettent de se faire une idée à peu près correcte, c'est que les pertes de chaleur se font essentiellement, déjà vous savez que la chaleur monte, donc déjà vous avez 30% qui partent vers le haut. Donc si vous faites un travail, une intervention de par le haut, pour éviter ces déperditions de chaleur, c'est déjà une bonne chose. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé la plupart du temps, comme les premières interventions les plus intéressantes à faire. Vous gagnez sur les 30% de déperditions. Voilà. Vous avez à peu près une vingtaine de pourcents de par les murs. Hein, vous avez 10 à 15% de par les sols. Par les fenêtres, alors vous avez selon les cas de 7 à 15%, donc moi on peut retenir quelque chose comme une dizaine de pourcents, parce que les fenêtres dans le bâti ancien, elles n'ont pas des grandes surfaces, hein, c'est pas des grandes baies, donc ça c'est tout à fait différent. Si vous prenez un bâti ancien ou un bâti des années 50, vous avez des proportions de baies qui sont complètement différentes déjà. Voilà. Et puis vous avez des déperditions aussi, on insiste beaucoup dans la thermique actuellement, sur les questions des ponts thermiques. Alors les ponts thermiques, c'est un matériau qui va être conducteur du chaud et du froid et qui va aller jusque vers l'extérieur. Alors si c'est par exemple un plancher de béton avec un balcon qui va sur l'extérieur en continuité, vous vous rendez compte que le plancher du balcon, il fait comme une ailette de radiateur. Le béton étant très, très conducteur, il va amener le froid directement par la dalle du balcon et par la dalle du plancher intérieur, il va conduire la température, que ce soit du froid ou du chaud, vers l'intérieur. Donc ça va être un grand conducteur. Donc c'est ça qu'on appelle en particulier un pont thermique. Alors dans le bâti ancien, imaginez que vous ayez une grande poutre comme celle que l'on voit ici. Alors est-ce que c'est un coffrage? Elles sont peut-être initialement en bois ou autre. Bon, si c'est une poutre en bois qui va jusque par l'extérieur et que l'on voit à l'extérieur pour qu'elle soit justement bien ventilée, bon. Le bois n'étant pas un matériau très conducteur, vous avez certainement un petit pont thermique, mais ce n'est pas un pont thermique très très important, ça ne se compare pas. Voilà. Et à la limite, le bois, il est moins conducteur que le mur lui-même. Donc, ce n'est pas le bois qui va apporter un pont thermique, ça sera peut-être plutôt le fait que la liaison entre le bois et le mur sera peut-être un peu mal faite et qu'il y aura peut-être des passages d'air ou des choses comme ça. Voilà. Donc, il faut être très vigilant sur ce que l'on dit en matière de pont thermique dans le bâti ancien. On peut dire que dans le bâti ancien, et très souvent même, dans le bâti ancien, si vous voulez, les éléments, les murs portent les éléments intérieurs simplement par la demi-épaisseur, à part les éléments de poutre, mais toutes les solives, etc., ne vont pas jusqu'à l'extérieur. Elles ne vont que elles ne sont portées que par le parement intérieur. Donc, il y a assez peu de ponts thermiques. Alors, on avait évoqué, alors maintenant, avec la grande recherche d'amélioration des performances énergétiques, donc la première préoccupation avant de travailler sur les modes de chauffage, etc., et sur les énergies, etc., la première des choses, c'est de rendre le bâti le plus performant au point de vue simplement de son confort thermique. Alors, comment l'améliorer déjà? Ça, c'est le sujet donc, qu'on va aborder. Donc, il ne faut pas demander non plus à un bâti ce pourquoi il n'a jamais été fait. Alors, on peut essayer de l'améliorer pour d'autres usages. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des exigences actuelles qui sont de très loin beaucoup plus délicates à obtenir que les modes de vie, que nous le demandaient les modes de vie d'autrefois. Hein, vous souvenez-vous, hein, nos ancêtres, surtout en milieu rural, ils étaient souvent dehors, ils rentraient chez eux simplement pour le midi puis pour le soir. Ils avaient une endurance aux rigueurs que nous n'avons pas. Et ils ne s'installaient pas devant un ordinateur pendant 3 heures bien noter la journée. Donc ils avaient un mode de vie complètement différent, ils avaient des exigences différentes. En plus de ça, ils vivaient d'une manière sélective dans leur habitat. Alors, il y avait la pièce commune, certes, et puis il y avait un chalet dans la pièce commune qui permettait, avec un parement de bois, d'avoir un confort thermique pour la nuit suffisamment satisfaisant. Ils avaient des grosses couettes, etc. Ils avaient des bonnets de nuit, ils avaient des chemises de nuit en coton ou en laine, etc. Bon, ils se protégeaient du froid. Donc nous, on a tendance à vouloir vivre en chemisette dans un bâti en granit qui est entièrement cimenté. Et puis on dit, ah ben, j'ai eu cette réflexion il y a longtemps avant que je n'habite ici, ou je commençais simplement à y habiter. Et mes copains me disent, oh, le Limousin, c'est, les maisons, c'est des glacières. Je me dis, oula, dans quel pays je vais ? Voilà la vision du citadin qui n'y connaît rien. Voilà. Donc, alors, il ne faut pas demander un bâti ancien. Tout ce qui n'a pas, été prévu d'obtenir. Voilà. Bon, ceci dit, donc nous voulons améliorer ces conditions-là. Alors, premier grand élément de mes propos, c'est surtout une mise en garde sur ce qu'il ne faut pas faire. On va reprendre un petit peu ce qui a été assisté tout à l'heure. Donc, le citadin qui arrive, je vois le fils d'un de mes copains, il a acheté une maison du côté de l'Upersa. Non, c'était ailleurs. Il cherchait une maison, et c'était d'ailleurs un presbytère, un ancien presbytère. Et puis, de Paris, il est ingénieur dans l'industrie automobile. Il m'a dit, la charpente avait un petit peu, elle avait pris un petit peu de gîte. Il m'a dit, cette charpente-là, je vais tout de suite, dès que j'aurai acheté la maison, je vais la traiter. Bah, je lui dis, tu as regardé la charpente, il y a 150 ans qu'elle existe, il y a 150 ans qu'elle a pris son gîte, et toi, tu vas faire zéro, et tu veux la protéger de quoi ? Je lui dis, tu ne vas faire que créer des désordres. Alors voilà la réaction d'un citadin quand il arrive en milieu rural, et en particulier tous ceux qui viennent s'installer en résidence secondaire, éventuellement après en maison de retraite. Donc il faut une mise en garde très forte. Il faut une mise en garde. Pourquoi vous voulez ?
Parce que tu as dit en maison de retraite.
Oui, en maison pour la retraite. En maison pour la retraite.
C'est vrai, les deux. Hein.
Je me sens un peu passé par le temps. Voilà. Alors. Donc on vient d'évoquer, c'est un petit rappel, hein, donc l'inefficacité, alors je vais quand même préciser, l'inefficacité, donc on a parlé du ciment, tout ça c'est à exclure, mais vous voulez faire une isolation par l'intérieur, ce qui a été fait pendant au moins 30 ans. Et donc vous faites une contre votre mur, pour caricaturer, vous faites contre votre mur une laine de verre, et puis vous mettez un placoplâtre, et puis vous estimez que toute l'humidité de ce vieux mur-là qui est mouillé, etc., où tu peux éclairer un peu, vous serez protégé d'humidité. Et puis quelques années après, vous voyez que au bas des murs, le long des joints, etc., vous voyez des moisissures qui apparaissent, etc. Vous avez donc enfermé l'humidité. Et vous l'avez enfermé en plus, vous avez aggravé ce que vous auriez pu faire mieux avec des matériaux respirants, vous avez fait avec des matériaux non respirants et qui ne savent pas gérer l'humidité. Donc l'humidité s'est développée dans une caricature dans la laine de verre. La laine de verre, ben, vis-à-vis de l'humidité, elle se comporte très mal, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas la gérer. L'humidité, elle va se tasser, elle va se descendre au pied de votre mur ou de votre voiture, etc. L'humidité, donc, intérieure de la maison. Va avoir tendance. Alors c'est là qu'on en vient toujours aux questions de respiration. Cette humidité crée. Alors sachez que dans une journée courante, un ménage moyen avec le mode de vie contemporain, de douche, bain, cuisine, etc. Le mode de vie contemporain fait qu'un ménage moyen avec deux enfants, dit-on, dégage à peu près 12 litres d'eau par jour dans l'atmosphère. Donc cette eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Alors quand vous isolez, de la manière que je viens d'expliquer là, un mur de cette manière-là, qui a été largement pratiqué, ben cette eau, il faut bien qu'elle soit évacuée. Alors si vos fenêtres fuient suffisamment, c'est déjà pas mal. Mais si vous avez mis des nouvelles fenêtres, vous voyez un petit peu ce qui vous attend. Donc cette eau, alors vous créez donc par notre comportement humain, on crée une surpression, et il faut que, donc en étant surpression par rapport à l'extérieur, il faut que cette vapeur d'eau s'évacue. Donc elle cherche tous les points. Et donc cette vapeur d'eau va pouvoir s'évacuer le mieux possible, non pas le long de la paroi, parce que la laine de verre, comme on savait déjà à l'époque, qu'elle craignait l'humidité, elle aura reçu un pare-vapeur, et devant le pare-vapeur, vous avez votre plaque de plaque au plâtre. Donc ce pare-vapeur donc, va empêcher effectivement la vapeur de se répandre, de passer à travers la laine de verre. Donc cette vapeur d'eau va pouvoir sortir. Et donc elle va trouver les meilleurs chemins possibles, c'est-à-dire les chemins des joints, où justement il n'y a plus le pare-vapeur, où le joint s'est mal fait, et donc elle va se glisser par là, et une fois qu'elle se sera glissée par là, elle va petit à petit trouver le mur froid, elle va se condenser, et vous allez avoir le fameux point de rosée qui va se développer, donc la vapeur d'eau va se transformer en eau, et cette eau ne va pas pouvoir s'évacuer, parce que pour repasser en sens inverse, ça ne sera plus possible, puisqu'il y aura les pare-vapeurs. Donc il y aura une conduction de la vapeur d'eau qui va la transformer en eau, et cette eau ne va plus pouvoir être gérée par votre système. Donc ça, ce sont évidemment des procédés qui sont tout à fait pernicieux et qu'il faut absolument éviter. Alors deuxième intervention totalement inadaptée, c'est la ventilation mécanique. Alors Denise, tu avais fait paraître une fiche, je crois qu'il est toujours en vigueur, là, qui était tout à fait merveilleuse. Denise, avec l'appui de Michel Zveri évidemment, nous avait expliqué qu'on transformait notre bâti ancien, on le transformait en cocotte-minute si on fermait tout. Donc il faut bien que cette vapeur d'eau s'élimine. Alors, Votre plombier ou votre électricien va vous dire, ben, vous avez des problèmes d'humidité dans vos murs, moi je vous fais une ventilation. Alors on vous propose une superbe ventilation mécanique contrôlée. Donc on va essayer de tirer l'eau de votre maison, pour la vapeur d'eau de votre maison, pour l'évacuer à l'extérieur. Moyennant quoi, ce que vous faites, c'est que par rapport au fonctionnement traditionnel de votre bâtisse, vous aviez une pression qui essaie de s'évacuer de par les murs, qui sont respirants, perspirants, etc., vous allez avoir une aspiration de votre mur, de votre atmosphère intérieure, vers l'extérieur, par un conduit, un ventilateur, etc. Et vous allez donc faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez contredire complètement le fonctionnement de votre pression. C'est-à-dire que vous allez mettre votre local, il était en pression, vous allez le mettre en dépression. Et à la limite, ce que vous allez faire, vous allez attirer l'eau qu'il y a dans les murs, vous allez l'attirer encore plus à l'intérieur. Vous voyez un petit peu le... Alors, j'ai rencontré récemment, je croyais que c'était un procédé merveilleux, mais je m'en suis méfié, je voulais faire un article dans Maison Paysanne de France. J'ai rencontré un monsieur tout à fait inventif, qui a mis au point un système de déshydratation. Alors, vous savez, il y a des déshydrateurs, c'est grand comme un petit meuble de cuisine. Donc il y a un petit moteur qui tourne là-dedans, et puis à la fin de la journée, vous récupérez dans un bac l'humidité de l'air, et vous avez des dizaines de litres d'eau récupérée. Alors donc il utilise ça essentiellement pour les édifices religieux, qui sont trop humides. Alors la mairie est bien contente parce que il absorbe l'humidité en trop qu'il y a dans ces petits édifices religieux, et au moment des services, on arrête, parce que ça fait du bruit, et il met en marche, comme s'il y a un développement de chaleur par l'effet du moteur, on peut combiner un apport de chaleur. Voilà. Et donc c'est un système qui marche assez bien dans le cadre des édifices religieux, mais ça fait du bruit, etc. Alors moi j'ai dit à ce monsieur-là, il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas ça dans vos vieux bâtis qui sont humides? Alors il fait ça chez lui d'ailleurs. Mais je lui dis, mais vous inversez complètement les flux de votre système de maçonnerie ancienne. Pourquoi vous ne le faites pas, au moins pour déshumidifier votre mur, un drainage à l'extérieur? Il me dit, c'est pas possible. Alors bon, je ne vais pas plus loin, mais vous voyez qu'une invention qui a l'air tout à fait intéressante, et à mon avis, contradictoire complètement, et donc les ventilations mécaniques sont, à mon avis, à proscrire. Alors, une ventilation mécanique, J'ai caricaturé un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas mettre totalement en dépression votre intérieur, mais faire une arrivée d'air froid quand même pour arriver à avoir une sortie d'air froid. Donc vous créez une moindre dépression. Ceci dit, ce que vous faites en faisant ça, c'est que vous amenez de l'air extérieur froid dans votre maison pour vous l'échauffer. Et puis vous chauffez cet air-là, et puis une fois que vous l'avez chauffé, vous le renvoyez à l'extérieur. Alors il y avait des réglementations il y a quelques années où on disait qu'il faut un renouvellement d'air, du volume d'air toutes les heures. Donc ça veut dire que toutes les heures, vous évacuez tout ce que vous avez chauffé de l'air sur l'extérieur. Donc vous chauffez 24 fois votre volume pour le rejeter dans l'atmosphère, avec les émissions de chaleur, de CO2, tout ce que vous voudrez. Donc c'est une ineptie. Alors évidemment on fait mieux maintenant, on fait une ventilation en double flux, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre de l'air froid, on prend de l'air qui a déjà été réchauffé par l'air qui s'en va. Alors ceci dit, toujours dans notre bâti ancien, faire ce système-là, ça demande des gaines, des canalisations, etc. Ça se passe très, très difficilement. Alors le mieux, c'est quand on a un surplus d'humidité, c'est de le traiter localement, avec une ventilation peut-être mécanique, mais très très adaptée et limitée aux pièces où justement on émet beaucoup de vapeur d'eau. Alors évidemment, quand vous prenez une bonne douche, il est utile d'avoir un petit ventilateur qui extrait le surplus de vapeur d'eau pendant le temps, et puis quelques temps après, on voit ça très facilement maintenant. Ces petits extracteurs sont très répandus maintenant, ils ne coûtent pas cher, et donc vous pouvez les installer dans vos toilettes, dans vos WC, et puis auprès de la cuisine au moment où vous servez de votre... vous êtes en fonction. Voilà. Alors donc, évidemment, à éviter toutes ces interventions trop agressives, et donc limiter les extractions dans les endroits où on crée, et au moment où on crée donc un surplus de vapeur d'eau. Alors dans nos bâtis anciens ruraux, ceci dit, il faut voir que dans nos fenêtres, laisser passer nos bas de porte, etc., laisser passer un coulis d'air, donc il faut essayer de maîtriser ça de la meilleure manière, en améliorant évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que... Je sais plus. Voilà. Ensuite, alors, intervention contemporaine qui est très à la mode maintenant. On a découvert, avec les thermiciens, on a découvert que comme on a des murs qui ont une grande inertie, ils conduisent quand même progressivement les intempéries, le froid et le chaud, quand même vers l'intérieur. Donc la meilleure manière de s'en préserver, c'est de s'isoler par l'extérieur. Donc ça, c'est la grande mode maintenant. Alors on vous dit partout, alors on isole par... Alors ça a même un terme maintenant qui est utilisé, hein, ça s'appelle ITE, isolation thermique par l'extérieur, en majuscule ITE. Alors si on vous parle d'ITE, hein, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Alors c'est en vigueur, ou ça va être en vigueur un peu partout, dans toutes les villes, etc. Moi, je vois la ville de Paris, avec laquelle je suis en contact assez étroit, donc ils vont faire une intervention pour savoir, pour justement lutter contre les déperditions énergétiques, etc. Ils vont voir comment, sur les grandes villes, sur les villes en général, comment on peut quand même essayer de participer à cette amélioration thermique. Donc il est question que sur les bâtis des Trente Glorieuses, ça va se répandre à toute vitesse, hein, parce que c'est le bâti le moins performant, et donc on va faire beaucoup d'isolation par l'extérieur. Alors il est bien évident que nous, dans notre bâti ancien, à part l'enduit dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est relativement fin, il n'est pas question qu'on détruise la qualité architecturale de notre bâti par des produits du genre, parce que ça se termine la plupart du temps, toutes les ITE, j'insiste sur ce sigle pour que ça vous pénètre un petit peu, que ne soyez pas trop choqués quand vous le retrouverez, l'isolation thermique par l'extérieur, tous ces produits, la plupart du temps, même ceux qui sont recommandés par les écolos, ça se termine par du polystyrène et puis une croûte. Hein, la plupart du temps, parce que c'est le polystyrène qui est le plus performant, mais sachez que le polystyrène, en plus dans le bâti ancien, il est totalement déconseillé, non pas parce qu'il a une énergie grise et un bilan écologique assez défavorable, mais c'est parce qu'il n'est pas du tout respirant. Donc, si jamais... si jamais au revers d'une façade qui ne se voit pas, etc., vous vouliez faire une isolation thermique par l'extérieur, il faut le faire avec des matériaux qui soient respirants aussi, une fois. Sinon, vous contredisez complètement le fonctionnement de votre mur. Donc là, grande méfiance aussi, fortement déconseillée. Et donc dans tous les abords des monuments historiques, dans tous les sites inscrits, les sites protégés, etc., évidemment, il n'en est pas question. Et l'autorité des ABF est largement contestée. Hier soir, je suis arrivé tard, j'ai quand même pris les informations régionales sur France 3. Eh bien, à 10h30, à partir de 10h30, sur les bouts de 11h moins 5, moins 10, quand ils font la partie régionale, ils insistaient là-dessus, sur ces questions-là de presque d'abus de pouvoir des ABF. Et c'était dans le Cher, je crois, c'était dans quel petit bourg, on estimait que l'ABF avait des pouvoirs trop importants. Donc son autorité est largement mise en cause actuellement. Moi, j'ai travaillé au sein des bâtiments de France pendant 9 ans, en tant que contractuel. J'estime que les ABF, ils sont parfois un petit peu autoritaires, un petit peu abusifs, ils sont parfois un peu d'un caractère un petit peu trop autoritaire, effectivement. Bon, mais disons qu'il y a 1% de défaut pour 99% de qualité, parce que s'il n'y avait pas eu ces genres de services, nos bourgs, notre bâti ancien aurait été totalement défiguré. Donc il faut savoir ce qu'on a eu avec eux et ce qu'on pourrait perdre si jamais ils perdaient une partie de l'autorité. Il était question d'ailleurs que dans le cas du Grenelle de l'environnement, leur avis conforme, c'est-à-dire l'avis de la loi, quand il s'impose, il soit supprimé dans les ZPPIP, les zones de protection du patrimoine urbain, architectural, urbain et paysager. Il était question que ce soit supprimé. Hein. Donc il y a une réaction, pour l'instant, c'est en suspens. Mais vous voyez, vraiment, il y a des mises en cause très fortes. J'ai participé à une réunion avec l'ADEME en juin-juillet dernier au niveau de l'Île-de-France. Et dans la salle, il y a eu une question. Mais quand nous délivrera-t-on de cet avis abusif des bâtiments de France? Donc dans la salle, c'était la maison de la chimie qui est grande. Hein, il y avait peut-être 1500 personnes. J'ai vu la salle applaudir. Applaudir, disant « foutez-nous en l'air cet avis abusif des bâtiments de France ». Moi, personnellement, je trouve que nous qui défendons le bâti ancien, il est certes un peu excessif parfois, mais il, à mon avis, il nous protège largement sur la qualité de notre bâti ancien. Voilà. Voilà donc quelques thèmes sur lesquels, caricaturalement, il faut être très vigilant et éviter d'avoir ce comportement d'intervention. Alors, qu'est-ce que sont les modes d'intervention les plus adaptés aux bâtis anciens? Alors, on a combien de temps, Louise?
Écoute, la prochaine intervention est à midi et quart. Question comprise.
Alors, bon, on résume un petit peu et puis on complète. Alors, règle d'or, on ne doit pas empêcher une construction ancienne de respirer. Ça, vraiment, il faut vraiment le seriner. Alors, le premier entrepreneur venu, artisan venu, le premier architecte venu, il ne va pas penser à ça. Et il va vous dire, moi j'ai des produits performants, etc. Donc, attention à ce réflexe. Hein. Donc, laissez la construction ancienne respirer de tous ses pores à tous les niveaux, que ce soit les murs, les planchers, les sols, les couvertures, les charpentes, les bois, etc. Tout doit respirer. Voilà. Alors, en matière de chauffage, comment s'y prendre? Le procédé de chauffage, on va y revenir plus tard, mais en matière de logique de confort thermique, c'est quand vous avez des parois qui sont à une bonne température que vous avez un bon confort. Alors on a pu constater qu'il était beaucoup plus agréable de vivre dans des murs qui sont à une bonne température et avec un air frais, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire un air bien chaud, mais avec des murs froids. Pourquoi? Parce que donc il y a des modes de transmission de la chaleur. Il y a trois modes principaux. Alors, il y a le mode du rayonnement. Alors le rayonnement, imaginez-vous sur un champ de neige par une belle journée d'hiver, le soleil vous donne toute sa chaleur, vous êtes très bien, alors que l'environnement, l'air est froid. Donc ça, c'est le rayonnement solaire, le rayonnement. Donc les murs, quand ils sont chauds, les matériaux qui ont de l'inertie, quand ils sont chauds, ils rayonnent. Donc ce rayonnement vous chauffe directement, et donc c'est une transmission directe sur votre propre, vos propres cellules directement. Vous avez un autre mode de transmission qui est beaucoup moins performant, c'est le mode qu'on a bien connu par les radiateurs, surtout par les convecteurs. Bon, parce que ces modes-là, ils ont tendance par la convection, c'est-à-dire qu'ils apportent, de la chaleur, et c'est cette chaleur qui est transmise à l'air. Et l'air chaud a tendance à monter, donc ça crée des mouvements de convection dans l'air, et petit à petit, tout l'air se réchauffe, mais donc par mouvement d'air. Donc ça, c'est un procédé de transmission thermique qui est peu performant, parce qu'il a tendance à ne chauffer que l'air, et il n'a pas tendance à apporter suffisamment de chaleur aux parois. Et puis vous avez un troisième mode de transmission de la chaleur, c'est la conduction. Alors imaginez une casserole, vous la chauffez par en bas, et puis elle vous chauffe votre lait pour le petit déjeuner, ou votre eau pour le thé, pour votre soupe. Donc le métal est un très bon conducteur du froid et de la chaleur. Donc il faut à ce titre-là. Donc il a des vertus, mais évidemment, si vous l'utilisez par exemple pour faire les menuiseries de vos fenêtres, si vous faites des menuiseries en métal, vous allez avoir, alors là vraiment ce dont qu'on a évoqué tout à l'heure, vous allez avoir des ponts thermiques. Parce que l'air froid va rentrer directement par ce métal, et ainsi de suite. Donc c'est un. La conduction a des intérêts, mais limités. Voilà. Donc, alors, dans le bâti ancien, ce qu'il faut privilégier, c'est donc la chaleur par les matériaux constituants de votre bâti, que ce soit les sols ou que ce soit les murs. On y reviendra quand on parlera des modes de chaleur. Voilà. Alors, on peut améliorer, comme on le disait tout à l'heure, aussi le confort de ces murs, qui sont quand même peu isolés sur l'intérieur. On disait que nos anciens mettaient des tentures, qu'ils mettaient des lambris. Vous avez tous connu ça, et des lambris simplement en stylobate en bas, ou même des lambris sur toute la hauteur. À partir d'ailleurs, souvenez-vous, à partir du 18e siècle, dans les demeures nobles, petit à petit, on s'est mis à faire des lambris sur toute la hauteur, et y compris, on s'est mis à transformer les plafonds à la française, c'est-à-dire où on voit toutes les solives, on s'est mis à les plâtrer. Alors, ça donne un style complètement différent, c'est le style du 18e siècle, mais thermiquement, c'est très bon. Évidemment, c'est pas du tout le même style, ça fait donc l'objet d'une configuration complètement différente et d'un mode de vie différent, mais c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors quand on revient aux solives, il faut voir ce que l'on peut perdre en confort. Il est bien évident que quand on fait des améliorations du confort thermique, la plupart du temps, on en vient aussi à faire des améliorations en confort phonique. Alors c'est important dans la mesure où on utilise des planchers qui n'ont pas été faits pour être circulés, par exemple. Si vous occupez un comble, alors qu'il était occupé en matière en stockage, si vous voulez en faire des pièces d'habitation, il est bien évident que là, il va falloir sûrement travailler la question phonique. Et donc, si vous renforcez la question thermique, vous y arriverez encore mieux. Bon. Alors, en matière de confort des maçonneries internes, des murs en particulier, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre bâti ancien? Alors, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on ne veut pas d'isolation thermique par l'extérieur. Les murs sont quand même un peu froids. On n'est pas toujours enclin à mettre des lambris. Qui sont peut-être onéreux et qui sont peut-être pas tout à fait assez efficaces par rapport à notre volonté de confort. Donc ce que l'on recommande, c'est qu'on peut faire un petit confort thermique par l'intérieur en faisant une petite couche d'isolant. Alors la grande mode maintenant, c'est de dire on peut faire ça en chaux chanvre, sur une épaisseur qui n'est pas trop grande. Pourquoi? Parce que en même temps, ça vous fait donc une protection vis-à-vis d'une transmission de trop de froid, si on peut dire, pour faire simple. et en même temps ça vous permet de garder la qualité de l'inertie du mur, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça, ça sera maintenu, ça sera chaud, et ben, l'ensemble restera chaud. Vous ne faites pas une barrière complètement, et si vous faisiez trop d'isolant thermique à l'intérieur, vous vous protégeriez complètement, mais vous ne pourriez pas bénéficier de l'inertie du mur à l'extérieur. Alors, le mode de vie aussi là joue énormément. Le mode de vie joue énormément. Le petit confort que je vous ai indiqué là, en faisant une épaisseur d'une à peu près environ 6 cm, disons, de chaud chanvre, entièrement respirant évidemment, ça crée donc une unité dans le mur qui est intéressante. C'est d'autant plus intéressant que vous y habitez d'une manière constante, en permanence. Si c'est votre maison de week-end, si vous voulez chauffer en une demi-journée, une journée, ça sera plus difficile. Alors, si c'est une maison de week-end, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit peu, mais toute proportion gardée et tout, avec beaucoup de raisons, on peut faire davantage un effet de boîte. C'est-à-dire que si vous voulez chauffer, cette couche d'isolation, vous la faites très épaisse, et bien, si vous chauffez pour le week-end, vous allez enfermer la chaleur dans votre cocon, et donc cette chaleur ne sera pas transmise au mur qui restera froid à l'extérieur, et dès que vous serez parti, ben, cette chaleur va redisparaître. Donc vous n'aurez pas bénéficié de l'inertie du mur. Ceci dit, si c'est le temps d'un week-end, vous serez bien. Voilà. Moi, j'ai l'expérience personnelle, j'ai fait ça chez moi, sans connaître suffisamment bien tout ce dont je vous parle aujourd'hui, parce qu'il y a une quinzaine d'années. Et donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait une contrepoison en plâtre à l'intérieur, et puis j'ai mis un isolant entre les deux. Et effectivement, dès qu'on arrive, en l'espace d'une demi-journée, si vous chauffez avec un mode de chauffage de radiateur, etc., ben, vous êtes très bien. Mais évidemment, on perd l'inertie du mur, on perd sa grande qualité de vous garder la température longtemps. Voilà. Donc voilà un petit peu les modes d'intervention que l'on peut envisager. Alors, en ce qui concerne les fenêtres, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc moi, ce que, évidemment, maintenant il y a un démarchage intensif pour vous proposer des fenêtres bien plus performantes thermiquement, mais c'est un démarchage qui est totalement abusif. Il y a maintenant un commerce éhonté qui s'est installé là-dessus, et donc moi j'ai, c'est même, sans parler de nos questions techniques, j'ai une de mes amies à Paris qui vient de changer de logement, elle veut réaménager, elle me dit, bon ben on va mettre des nouvelles fenêtres, bon, on va mettre des nouveaux vitrages. Donc elle consulte quelques gens, ou bien on se présente à sa porte. Et donc en une heure de temps, les deux fenêtres qu'elle voulait changer, le gars lui a proposé au départ un devis de 3000 euros pour changer deux fenêtres. Et une heure après, il est tombé à 1200 euros. En ayant téléphoné à son patron, etc. Alors cet ami m'a dit, bon, je lui ai dit au bout d'une heure et demie, je lui ai dit, bon, ben, je vous remercie, je ne ferai pas affaire avec vous. Parce que ce n'est que du commerce, et on vous vend n'importe quoi. Alors ça mis à part sur cette question purement commerciale, je vais insister beaucoup plus raisonnablement sur des questions techniques. Donc vous pouvez envisager de faire évidemment un doublage thermique, enfin un double vitrage. Bon, alors évidemment, votre vitrage sera évidemment plus performant. Cependant, sur les menuiseries anciennes, ces doubles vitrages sont plus lourds. Ils sont difficiles à installer dans des petits bois, parce que chaque fois il faudrait mettre un double vitrage spécifique avec son cerclissage, et les petits bois ne seraient pas capables de supporter donc ces éléments-là. Donc dans la réglementation actuelle, dès que vous faites un double vitrage, il faut des bois plus épais et pas de petits bois en quelque sorte, ou alors des faux petits bois. Voilà. Alors il y a toutes les variations possibles sur ces transformations. Alors pour être plus radical, moi, ce que je dis maintenant, ce que disent beaucoup plus, de plus en plus les bâtiments de France, c'est qu'une fenêtre ancienne, la plupart du temps, c'est un trésor. C'est un trésor dont les performances, vous n'arriverez jamais à les égaler en mettant, premièrement, une menuiserie contemporaine. Pourquoi ? Si vous prenez un très bon bois comme les bois tropicaux, c'est un coût écologique considérable. Si vous prenez des bois locaux, c'est mieux. Ces bois locaux, ils sont coupés à des saisons qu'on ne maîtrise plus, on ne sait plus du tout comment ils vont se comporter. Vous avez un trésor de menuiserie, il faut le garder. Même si votre menuiserie a l'air abîmée sur l'extérieur, vous vous rendez compte que si vous faites une coupe, moi ça m'est arrivé de faire une coupe sur une vieille menuiserie qui avait l'air toute mocharde, parce qu'on ne l'avait jamais entretenue pendant des dizaines d'années. Moi je connais des appartements parisiens de mes amis, de ma famille, ils sont dans de l'haussmannien, ils sont là depuis 35 ans, ils n'ont pas touché les fenêtres, pas du tout. La peinture s'est écaillée, bon on voit les fibres qui ont été plus ou moins attaquées, mais ce bâti haussmannien qui a déjà 150 ans à peu près, ou 130 ans, ben, il a été les fenêtres ont été peintes deux fois, et ben, elles sont un peu moches de l'extérieur, si on ne veille pas un peu à une coquetterie, à un petit entretien, mais à l'intérieur tout se passe très bien. Donc ce bois-là, alors, si vous le coupez, le bois, vous voyez qu'effectivement la texture sur l'extérieur est un peu fibreuse, est un peu grisée, est un peu abîmé, mais vous voyez que l'intérieur, le cœur de l'intérieur, c'est de l'or, c'est du chêne en or. C'est magnifique. Jamais, jamais, jamais vous ne pourrez obtenir cette qualité-là que vous avez. Donc il faut savoir garder ce que vous avez. Donc la meilleure des formules, finalement, s'avère être de... Alors, sans parler de la qualité des vitrages, sans parler de la finesse des bois... Je vous rappelle que nos ancêtres, quand ils faisaient un trou dans la maçonnerie, quand ils faisaient un trou, c'était pour faire pénétrer la lumière et le soleil, et ce n'était pas pour faire des gros bois. Donc ils faisaient menuis, ça veut dire fin. Donc les menuisiers travaillaient dans la finesse du bois, et donc ils faisaient le minimum de matière possible pour laisser maximum le jour passer. Donc ce que l'on vous propose souvent maintenant, on vous dit, ah ben oui, mais alors, pour ne pas faire trop de dégâts, on vous met une fenêtre neuve avec son cadre, mais on vous le met dans le cadre ancien. Et donc vous réduisez considérablement la possibilité de ce qu'on appelle l'éclair de jour, c'est-à-dire la partie de vitrage qui laisse passer la lumière. Donc vous altérez tout. Vous altérez ne serait-ce que les qualités intrinsèques de laisser passer la lumière, et puis en même temps, vous altérez la finesse de la qualité de ces menuiseries qui sont toutes en finesse. Voilà. Alors donc, pour faire un petit peu rapidement, à mon avis, la meilleure formule, c'est de faire une deuxième fenêtre. Alors cette formule-là, elle est classique dans les pays froids. Vous allez en Russie, vous allez moins loin, vous allez en Alsace, vous allez en Suisse, vous allez dans le nord de la France, vous allez dans les pays britanniques, vous trouvez les doubles fenêtres. Voilà. Donc, à mon avis, c'est la formule la plus adaptée. Vous ne perdez pas du tout la qualité, en tout cas extérieure, de votre bâti. Et puis, à l'intérieur, vous avez un confort. Alors, évidemment, il faut éviter de faire une fenêtre. Il vaut mieux éviter de faire une double fenêtre à l'extérieur, parce que vous perdez la lisibilité extérieure de votre fenêtre. Il faut la faire, de préférence, à l'intérieur, dans les ébrasements où vous avez largement de la place. Il suffit de faire une fenêtre un tout petit peu plus grande, de telle manière que quand la fenêtre récente, vous l'ouvrez, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre la plus ancienne. Et on dit toujours que, en particulier dans les pays comme l'Alsace, on dit que la fenêtre intérieure, ils la déposent pendant l'été, ils l'entreposent, et puis ils n'ont plus qu'une fenêtre. Voilà. Donc c'est une formule qui est tout à fait remarquable. Et je vous signale que en matière, bon c'est pas tout à fait notre propos, mais en matière phonique, c'est de très 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 loin la méthode la plus performante. Voilà. Et en thermique, c'est très bon. Alors évidemment, il faut que votre fenêtre intérieure laisse aussi passer un peu l'air pour ne pas avoir à créer des monstruosités comme des ventilations mécaniques. Voilà. Voilà. Ensuite, les premières interventions les plus faciles, les plus courantes maintenant, c'est d'isoler les combles, parce qu'on les utilise de plus en plus. Donc c'est de faire, alors on y reviendra peut-être cet après-midi, de faire une bonne isolation thermique des combles en laissant la ventilation et la respiration à travers tous les bois de charpente. et en surface de couverture. On ira peut-être dans ces détails-là cet après-midi. Voilà. Alors, grosso modo, pour simplifier les propos, actuellement, avec les réglementations thermiques qui sont recherchées, grosso modo, il y a une dizaine d'années, on faisait une vingtaine de centimètres de couches de laine de verre ou autre. Maintenant, avec des matériaux respirants, on conseille la plupart du temps de faire à peu près une trentaine, Isabelle nous donnera son expérience de cet après-midi sûrement, une trentaine de centimètres. À ce moment-là, vous obtenez à peu près des qualités thermiques qui fait que, en tout cas au niveau de l'isolation par la toiture, vous arrivez à ne plus avoir besoin de quasiment de chauffage dans les pièces ainsi équipées. Voilà. Donc il faut plutôt viser une bonne trentaine de centimètres respirants que les vingtaines de centimètres non respirants d'autrefois. Voilà. La ventilation, on en a parlé, donc plutôt une ventilation mécanique répartie dans les endroits d'humidité, de l'extraction de vapeur d'eau. Et puis alors, donc, la fameuse question de l'humidité dont on a parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à faire un bon drainage de extérieur et intérieur. Alors évidemment, à l'intérieur, si on parle du sol du rez-de-chaussée, si vous avez eu l'occasion de modifier ce sol du rez-de-chaussée, veillez à ce qu'il soit bien drainé et ventilé dans le drainage pour éviter les remontées capillaires de par le sol, etc. Évitez tout ce qui est imperméabilisant dans les sols, c'est bien évident. Sur les murs, donc, s'il y avait des enduits, remettez des enduits à l'ancienne, exactement comme faisaient nos anciens, c'est très bon. Et ensuite, évidemment, veillez à votre système de couverture, évitez, surtout si vous ne les entretenez pas, de mettre des gouttières qui vous altèrent considérablement la qualité de votre bâtiment.